attention, non ?
J'étais en train de discuter.
Mais vous êtes quoi, pauvre con ?
J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur.
Connard !
CO2, mon amour.
C'est terrible ce qui vous est arrivé.
Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim.
Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur.
Avec Denis Chessou.
Il y a les arbres en-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours.
Tu leur as dit merci aux vaches.
Sur France Inter.
Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible.
Et ben voilà, donc un petit extrait de La Belle Verte pour débuter. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir. Donc CO2 mon amour, cette émission qui chuchote, ou c'est plutôt la nature qui chuchote donc à vos oreilles, avec aujourd'hui Grégory Wallon à la technique, et c'est assisté de Marion Philippe, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Qui va être très pyrénéenne, vous allez le comprendre, avec une petite humeur. Ah bah oui, tenez, tiens, bah on en est presque dans le sujet. Vendredi, dès midi, c'était l'exode sur le périphérique parisien. Vélo, planche à voile, toutou dans la voiture, sac de masque et bonbonne de gel sur le toit. Alors, soyez sympas quand ils arrivent chez vous, pas d'agressivité, même s'ils viennent avec un virus planqué dans la boîte à gants, ou pas, heureusement, ou pas. Il faut les ménager. Ne pas dire bonjour en souriant à un Parisien, il n'a pas l'habitude. Faites la gueule, ça leur rassurera. Il lui faut en général 3 à 4 jours pour se détendre, s'habituer au changement d'air, comprendre que le stress n'est pas partout le moteur dans ce pays, et que sourire permet de faire travailler de nombreux muscles du visage. Je plaisante, bah, bien sûr que c'est une caricature. 21 mars, journée internationale des forêts. Alors nous les forêts, nous sommes de la peau de la terre. Nous avons fabriqué vos champs, votre oxygène, vos oiseaux, vos contes, votre humus, votre eau. Et là, si on considère l'arbre uniquement comme un futur tas de planches, de piquets de clôture, de rouleaux de papier ou d'escaliers, il est évident qu'une bonne coupe rase tous les 40 ans, dont 2 dans une vie, peut raisonnablement réjouir, arrondir bodaine et compte en banque du gestionnaire matois. Mais si on garde cet état d'esprit de coupe à blanc, comment pourrait-on aujourd'hui reconstruire la mâture de l'Hermione ou les charpentes de Notre-Dame ? Heureusement, les conditions économiques des siècles passés exigeait que l'on plantât un peu plus loin que le bout de son nez. Comment pourrait-on mourir de bonheur en contemplant de véritables chênes, hêtres, châtaigniers ou cyprès séculaires, témoins de tant de belles turpitudes humaines ? Et comment Édouard Cortés aurait-il planté sa cabane pour observer la faune pendant des mois ? Alors, à quoi bon pleurer sur l'hécatombe des forêts primaires amazoniennes, africaines ou asiatiques, si l'on est capable d'en faire autant aujourd'hui sur le territoire national ? Et là, ça chauffe depuis des mois du côté de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Pourquoi ? Projet d'installation d'une méga, mais vraiment méga scierie italienne. Il s'agit de transformer 50 000 mètres cubes de hêtres de haute qualité en bois d'œuvre par an. Comme on utilise environ 10 à 13% de l'arbre, il faut en sortir 200 000 à 500 000 mètres cubes, c'est-à-dire 2 à 3 fois l'abattage actuel. Et bien sûr, on défoncera les montagnes pour y accéder. Et en prime, allez hop, 6 000 grumiers de plus sur les routes. Alors que lit-on dans le rapport de l'Observatoire des forêts des Pyrénées centrales, association financée par la région Occitanie ? Cela ne répond pas au double enjeu de changement climatique et d'érosion de la biodiversité, mais au contraire ne fait que l'accentuer. Et ce sera une pression insoutenable pour les hêtraies pyrénéennes. Alors certes, on est bien d'accord, il faut exploiter nos forêts, les régénérer, utiliser son bois, là-dessus aucun souci. Mais comme d'hab, l'homme et le sens de la mesure, règle de l'écologie, ça fait 2. Alors là, vu les volumes, on bouffe à la fois les intérêts et le capital. Et derrière, on va faire de la cogénération, c'est-à-dire fabriquer de l'électricité avec le reste du bois qui est le rêve du maire PS de Lannemezan et de la Comcom. En pleine urgence climatique, cramer du bois est absurde. C'est aussi polluant que le charbon ou le pétrole. Et par ailleurs, les études montrent que les vieux arbres continuent à piéger du CO2, c'est ce que décrypte Sophie Maillet. L'investissement global, bon, une paille, hein, 11 millions d'euros. Alors, je vous rassure, la scierie industrielle serait copieusement subventionnée, notamment par les collectivités locales, institutions tiraillées toujours entre l'économie et le discours écologique. Voilà, comme le pointe très très bien l'article de Nicolas Santolaria du Monde. Le collectif Touche pas à ma forêt, donc bête noire des coupeurs industriels, manifeste ce week-end, et grâce à eux, le dossier est mis en suspens. On appelle ça un moratoire. Étude de concertation qui va démarrer, bon, après les élections. Alors écoute, bûcheron et mégasure industriel, arrête un peu le bras, ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas, Merci à vous, monsieur Ronsard. Oui, fêtons les forêts, mais oui, sans leur faire leur fête. Et dans quelques instants, bah là aussi, très beau lieu évidemment de forêt, je pense entre autres à la, au chemin de la Mature, mais enfin on y reviendra. Donc c'est la Haute Vallée d'Aspe, on va aller dans les Pyrénées-Atlantiques, et je vous le disais donc avec Alain Larribey, donc un type assez exceptionnel. La musique, la nature, le tout mêlé, vous allez vous faire du bien, c'est ce que je vous souhaite.
Galvanizing uncertainty, mindful of the weary inkling that is lurking.
Donc je le découvre comme vous, c'était King Gizzard sur France Inter, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Respirez, on y va, c'est au de mon amour, l'émission qui vous déconfine toute l'année quoi qu'il arrive.
Tu vois, j'ai voulu vraiment que tu viennes ici, venir voir ce bout de l'Esquin, au-dessus de l'Esquin, cette nature qui est juste là, tu vois, qui ne se pose pas de questions, elle est là, elle avance tranquillement. Ce qu'elle peut faire avec le soleil, la pluie, le vent, elle est là tranquillement. Et je pense que plus avant, on devrait prendre exemple encore sur elle. Avant, on était avec elle. On faisait partie de la nature. On était vraiment avec elle. On vivait avec elle. Aujourd'hui, on se croit au-dessus d'elle. Revenons un petit peu en arrière. C'est pas rétrograder, ça. C'est au contraire, c'est retrouver nos racines, retrouver nos bases. Et si on consolide encore mieux nos bases, on pourra s'envoler beaucoup plus haut.
Merci à la déesse Pyrène d'avoir donné son nom aux Pyrénées, née quelques millions d'années avant les Alpes. Dans les Pyrénées, on va regarder le Béarn, Pyrénées Atlantiques. On va pénétrer dans cette vallée d'Aspe, une des trois vallées du Haut-Béarn. Alors c'est une belle vallée glaciaire, hein, nord-sud de 40 km, qui va partir de Loron à peu près Sainte-Marie et qui tend la main à l'Aragon espagnol via le col du Somport. On va grimper jusqu'à l'Esquin, avec sa construction, alors qui est très belle, qui est étagée sur un versant exposé au midi. Là vous avez un cirque de montagne, vous avez le pic d'Annie, les aiguilles dans sa baie, et puis on va poursuivre plus haut, à travers une forêt, justement, de hêtres et une estive posée face au pic du Midi d'Ossau qui nous attend. C'est le lieu d'Alain Larribey. Alors Alain Larribey, ancien berger, musicien, qui a été accompagnateur de Muréhead, aujourd'hui de Yannick Jolin. Et ici, il écoute les sons de la nature de ses Pyrénées, mais aussi d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs. Et il demande au vent de colporter ses notes écrites au bord du torrent. Quand la nature, la montagne, les bêtes inspirent les musiciens. C'est aujourd'hui avec Alain Larribey qui signifie la petite rivière.
Le pic du Midi d'Ossau, le requin, on l'appelle.
Parce que là, il a donc ses dents.
C'est ça, ses dents.
Avec une ouverture.
L'ouverture, comme s'il allait recevoir tous ses poissons. Il reçoit les nuages, on dirait qu'il va manger les nuages.
Et aujourd'hui, vous nous emmenez haut dans le ciel. Mais avant, pour y arriver, y a le sentier, il y a le chemin.
On arrive chez des amis. Les bergers, Fred et Agnès.
Vous, en fait, Alain Larribey, avant d'être musicien, compositeur, eh ben vous avez aussi été berger, donc vous connaissez ce métier, quoi.
Mon père était paysan, mon oncle était berger, parce que dans les familles, avant, le plus grand était paysan, le dernier était le berger. Et moi, les étés, je passais mes colonies, pas de vacances, mais c'était des colonies de montagne, comme mon tonton disait. Alors, t'arrives, tu viens passer les colonies de montagne. C'était ça, on passait 2, 3, 4 semaines de mes vacances là-haut, dans les montagnes avec lui, et aller apprendre ce métier de berger, aller prendre, après attraire les brebis, aller faire le fromage, aller vivre tout ça, aller vivre en compagnie de l'ours qui était là, quoi, puisque là où on était en Arbèze au-dessus de Cetigan, et l'ours vivait là, vivait dans la grotte juste au-dessus. On savait qu'il était là.
Donc on faisait avec, hein.
On faisait avec, on vivait avec lui. Mais parce qu'il y avait le berger qui s'occupait de 200, 400 brebis. Ouais. Voilà. Il était là avec ses chiens et c'est pas tout. Sur notre gauche, on a les brebis de Fred et d'Agnès. Avec les vaches qui sont juste là. Les blanches et marron.
Alors, je vais pas dire que ce sont les premières compositrices de la montagne, mais enfin, en tout cas, elles...
Regarde, Denis, tu vois, moi, il y a quelque chose qui m'a tout le temps marqué. Quand j'étais enfant, et peut-être que c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire la musique, ouais. Quand on regarde la fin de la montagne, là, tu vois, on voit les brebis. Ouais. Chez nous, on les appelle les Wires. Et tu vois, il y a des blanches et des noires. Et sur ces vieux sentiers, c'est comme si c'est dessiné une partition, des blanches, des noires, des notes de musique. Peut-être ça qui m'a donné un jour envie de passer de l'autre côté aussi de la montagne, aller voyager à travers le monde. Ouais. Peut-être ça, tout simplement.
Et puis quand même, le chant des sonailles, hein,
ah,
qui sont
oui.
là.
Le chant
qui ont été une des premières musiques que vous avez captées.
Ah oui, quand on faisait la transhumance... On entendait toutes ces sonailles qui se promenaient. On a chez nous ici un berger qui s'appelle Blaye, qui est un spécialiste des sonailles. À la sonaille, ici, à qui appartient la brebis ? De suite. C'est pour ça qu'on mettait les sonailles, pour ne pas les perdre, et aussi pour savoir à qui elles appartenaient. Et comme on les marque aussi, on les marque des fois en bleu ou en rouge, c'est parce que des fois, elles se mélangent. Dans l'estive, elles peuvent se mélanger, des fois, elles peuvent se... Parce qu'ici, on vient d'arriver à la cabane d'Arquibet, mais là-bas, la cabane de Batch, c'est notre berger. Alors, des fois, ça peut arriver... Parce qu'il y a la brume, tout ça, elles peuvent se mélanger. Alors, comment les reconnaître ? À la cloche et surtout aux couleurs qu'on leur met sur la laine.
Alors est-ce qu'ici on sifflait entre bergers ? Parce que ça a été une tradition et un langage qui a été créé à As, au-dessus de la Reims. Et d'ailleurs on s'est rendu compte que ces bergers avaient le même langage avec d'autres bergers dans les Canaries, à la Réunion et aussi en Turquie, même s'ils ne s'étaient pas rencontrés, mais... Est-ce qu'on pouvait se donner des nouvelles comme ça à cette époque-là ou...
Alors, c'était un sifflet assez simple, mais on pouvait se dire « Tiens, j'ai perdu des brebis, ou t'as pas vu mon chien ?» Ou des choses comme ça qui étaient importantes. Ou, par exemple, je sais pas, moi, s'il manquait du gaz, ou s'il manquait de quoi manger, ou je sais pas, des choses comme ça. Ou il y a l'orage qui va arriver, tu vois, des choses comme ça. Pour avertir, c'était au sifflet. On sifflait d'une façon très particulière.
Pour vous, aujourd'hui, en tant que musicien, compositeur, vous avez envie de faire passer ce souffle-là, c'est-à-dire celui de la nature, qui est votre première partition d'enfance.
C'est ma première musique. C'est ici où j'ai appris les premiers sons de ma vie. Quand j'avais 7 ans, 8 ans, quand je montais en montagne, j'entendais tous ces sons. Et le son du vent qui se promène dans les arbres, quand on entend toutes ces feuilles claquer comme ça, on dirait qu'elles dansent, quoi. Et on dirait qu'elles font des claquettes. Et un jour, quand j'ai découvert les instruments que je suis en train de jouer aujourd'hui, les instruments du monde, comme on dit, que j'ai appris à travers mes voyages, j'essaie de retranscrire ce que j'ai pu recevoir quand j'étais enfant. Parce que je pense que quand on est enfant, une éponge, on n'a pas de barrière.
Non.
Quand on est adulte, quand on avance, on se met de plus en plus de barrières. Mais quand on est enfant, on n'a pas de barrière, on est là tout pour recevoir. Et c'est ça qu'il faut, je pense, aujourd'hui à retrouver en tant qu'adulte, lâcher ces barrières et retrouver cette âme d'enfant. Un jour, un peuple m'a dit, Alain, nous sommes comme des arbres. Et je lui ai dit, pourquoi tu dis ça ? Mais parce qu'un arbre, il lui faut ses racines pour construire son tronc, et de son tronc, il va construire ses branches. Si nous, on n'a pas de racines, si on n'est pas enraciné quelque part, le moindre vent va nous faire tomber. Et moi, j'ai passé presque une trentaine de ma vie dans une souffrance très noire dans ma vie. Et si je n'étais pas revenu à mes racines, peut-être que je n'aurais pas pu résister à tout ça, quoi. Et c'est tout ça qui m'a donné, retrouver mes racines, qui m'a donné envie d'avancer et de construire mon présent aujourd'hui pour construire mon futur.
C'est bien le drame de beaucoup de gens qui vivent hors sol, quoi.
On se nourrit tellement de choses hors sol qu'on devient hors sol petit à petit. S'il n'y a pas d'arbres, s'il n'y a pas la nature, on ne peut pas vivre. Elle, sans nous, elle vit tranquillement.
Évidemment.
Elle n'a pas besoin de nous, elle. Ça, voilà. C'est sûr qu'elle n'a pas besoin de nous. Mais nous, sans elle, on n'est pas là. On n'est pas là.
Là, l'équilibre homme-nature-animaux, ça fonctionne.
Quand regarde les vaches, comment elles sont paisibles. Regarde comment elles nous regardent, là. Elles sont en train de ruminer ce qu'elles viennent de manger tranquillement dans leur petit ventre, là, dans leur estomac. Elles sont en train de regarder avec leur petite cloche. Oui. Et les brebis qui sont au-dessus, en train de manger, d'aller boire un petit coup dans la rivière. Regarde, oui. Tu vois ?
Oui, tout est à sa place.
Tout est à sa place
parce que là, c'est quand même le travail de l'homme.
Parce qu'on le veut, parce que tout dépend de ce que l'homme veut en faire de tout ça aussi. Ça. Quand on entend des fermes où il y a 30 000 vaches qu'on va traire dans un désert, où on en est là ? Où on en est ?
Alors là, le pays, je sais pas si c'est, je crois que c'est peut-être les Émirats ou c'est Dubaï. Enfin,
c'est Dubaï, j'ai vu ça dernièrement.
C'est des instruments de production, c'est pas des animaux.
Et bien là, on va prendre le chemin pour aller rejoindre la cabane de Fred et d'Agnès et des deux enfants parce qu'ils vivent, ils passent juillet et août avec le couple, ouais. Agnès et Fred, et leurs deux petits-enfants. Voilà la beauté quand même de tout ça. On surplombe toute la forêt là.
Wow, allez, trois isards là, hop. Trois de l'équilibre, comme le chamois. Et on arrive à la cabane. Ah, on commence par entendre la source peut-être.
C'est ça. L'eau de la source. Et juste devant, il y a les bidons et la chance pour traire. Parce qu'ils traient à la main. L'autre jour, je suis venu et ça faisait 35 ans que je n'avais pas mis les mains sous un pis. Et je me suis amusé à le refaire. Il m'a remontré ça, Fred, pour comment retrouver cette impression de reprendre les pis dans les mains quoi, et de retraire la vraie. Regarde, tu vois, regarde ce qu'il y a marqué là. Cabane de berger.
Famille, enfant, travail, calme, repos.
Silence, respect, animaux, nature, sauvage.
Merci.
Merci.
Voilà.
Voilà, et là on arrive chez Fred et Agnès.
Laissons Agnès et Fred terminer de brasser donc le lait et on va les retrouver. Bien sûr, c'est pas fini cette balade. Respirez bien, c'est pas terminé. Vous êtes bien sur France Inter, CO2 mon amour. Allez, on en profite.
Si le battement presse ta poitrine. Avec force à te donner l'envie de t'élancer dans le vide. Sans raison, sans filer, sans compter le temps qui défile. We'll be right back.
qu'à la lueur du jour.
Si je vous dis que ça s'appelait Danse, vais-je franchement vous surprendre? C'était Mesparoueur. Là, c'est plutôt danse, mais effectivement, c'est plutôt dans votre salon. Et les oiseaux, ah bah ça, ce sont les nôtres.
Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
Faudrait venir l'été.
Il commence à me taper sur le système, ces oiseaux.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Alors là, on se calme de nouveau. Donc, je vous le rappelle, nous sommes dans les Pyrénées-Atlantiques, nous sommes dans le Béarn, dans la vallée d'Aspe. On est au-dessus de l'Esquin, donc on est sur la rive gauche. Nous avons le Gave à nos pieds. Enfin, à nos pieds, non, il est loin, là où nous sommes. En fait, il est loin, ce fameux Gave. Sur la rive droite, je vous ai parlé du chemin de la Mature, mais ça, je crois que vous le connaissez. C'est-à-dire que c'est une gouttière extraordinaire qui a été construite par les hommes. On est à peu près au 17e, 18e siècle, 18e, je crois. Et donc là, il s'agissait, en fait, de faire descendre des troncs de sapin longs et droits. Donc, entre autres, à travers cette goulotte. Donc, vous avez une espèce de coup de sabre comme ça dans la falaise. Et donc là, donc on est de l'autre côté, mais vraiment on est pas loin, toujours avec Alain Laribet, donc notre homme de la petite rivière. Je crois que vous avez bien compris sa sensibilité. Et on rejoint Agnès et Fred Genot, qui sont originaires du Lot, et vous allez comprendre quelle est leur histoire. C'est tout à fait intéressant. On y va. Eh bien, bonjour à vous. Salut Fred, bonjour Agnès.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Et quand même indispensable.
Ah bah oui. Oui. Black et au riz, elle est là. Et après il y a le patou qui est encore avec les brebis.
Là où, le patou, là où, hein?
Oui, elles se sont séparées là. Il y a les brebis sont restées au bois en haut là. Et ce groupe là est descendu.
Donc là vous avez à la fois vos brebis à vous et puis aussi d'autres brebis.
Et je garde les brebis d'un éleveur de la commune. Voilà. On mélange nos troupeaux.
Là c'est l'eau de la source quoi, là. Il n'y a aucun produit là.
Tiens. Ça, c'est bon, quand même. Elle est bien fraîche. Mais t'as vu le goût? T'as vu, on dirait qu'elle est presque plus onctueuse. Regarde, Denis. Regarde ce qu'il y a là, derrière, cette forme de nuage.
Et ce matin, il y avait cela, mais en boule. Là, tout seul, au milieu du ciel, des ronds, parfaitement ronds. Des nuages, c'est cotonneux en même temps, qui s'étirent. Aujourd'hui, c'est incroyable, la forme de ces nuages.
L'autre jour, on était là, tranquillement, le soir, tranquillement, en train de parler. Et tout d'un coup, on regarde vers le saut. Il y avait quelques nuages et tout d'un coup on voit les nuages s'illuminer, tu vois, prendre de la lumière. Et là derrière on voit un lever de lune. Mais un lever de lune, mais c'était d'une beauté, j'avais jamais vu ça. Alors comment tu ne veux pas que quand tu vois tout ça, quand tu vis tout ça, que ça ne peut pas ça t'inspire la musique, ça t'inspire des sons. Et de ces sons-là, tu en sors après des notes de musique. Et pour moi, ces notes de musique, j'en fais des voyages. Quoi. Je ne peux pas faire autrement. Quand tu regardes ça et quand tu regardes avec tes yeux et tes oreilles, mais. C'est regarder avec ses oreilles, je trouve ça beau, tu vois. Il y a tout est là, quoi. J'aimerais que tu nous racontes ces deux premiers jours que tu as démarré ici, comment ça s'est passé, parce que ça m'a vachement touché, comment ça va. Raconte-là ce petit bout d'histoire, c'est magnifique ça.
J'ai rencontré Peyou, le berger qui était ici, et donc moi j'encadrais des camps itinérants avec des ados de l'itinérance en montagne, et j'ai rencontré ce berger. Alors, je suis fils d'éleveur, je connais un peu le monde agricole, mais pas la montagne, on est massif central, nous. Et on a lié, il s'est passé quelque chose, quoi, cette rencontre. Moi, je voulais faire un peu découvrir ce métier, j'avais vraiment envie de ça, donc je posais question, j'allais le voir à la traite, il a bien senti que j'avais envie aussi. On lui a promis avec Agnès de revenir le voir l'année d'après, on y a été, voilà, on est rentré à la cabane, nous invité à manger, on a même dormi dans la cabane, chose de tu vois.
Oh, oh.
Voilà, oui. Bon, il est tard, vous
allez.
Voilà. Et puis, quand même, il a dit, bon, si tu aimes ça, il m'a sorti cette phrase, je te laisserai un jour ma cabane et mes brebis. Et puis au printemps d'après, je transhumais avec des copains dans le Lot là, et le téléphone sonne, c'était Peyou. Et il me dit, bon, ma femme est malade, il faut que si vraiment t'as encore envie, viens et on partage l'été. Je fais un mois, tu fais un mois. Et ça a démarré comme ça. Et donc nous voilà arrivés l'été qui suivait. Et donc on reste le soir, on fait la traite, on mange ensemble, quelques astuces, bon, les bidons, le lait. Le matin, traite, il m'apprend à faire le fromage. Alors tu chauffes à temps, tu mets la présure au temps. Le sel, c'est tant de jours pour terminer. Bon, les brebis passent là à peu près. Le soir, ils redescendent. Il prend son sac à dos et il s'en va.
Le lendemain, qu'il est arrivé, quand?
Il est resté une nuit.
Il est resté une nuit?
Il n'est pas resté manger à midi, le lendemain.
Ah, il est parti. C'est ça, l'histoire. Je trouve ça énorme.
Et il m'a mis la main sur l'épaule. Il m'a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et il est parti dans le bois, là. Et il m'a dit, il y a dans un mois.
Et là, tu te retrouves.
Et là, bon,
le grand saut, mais aussi avec une confiance incroyable de cet homme.
Et je pense avec Agnès. Et c'est ça qui, je pense, m'a. C'est cette confiance non verbale, tu vois. Et du coup, ce challenge, moi j'ai dit ok, allez, on y va maintenant. Et il a plu en plus, il a plu, c'était dur. Il a plu, la traite, c'était dur, ça glissait, ouais, la boule, ouais, c'était dur.
Il a plu du froid, on a allumé le poêle, je crois, toute la saison, quoi. C'était donc une pleine imprégnation de la montagne.
Quand on est redescendu, il m'a mis la main sur l'épaule à nouveau. Il m'a offert un parapluie de berger, le parapluie de berger encore qui existe. Il m'a dit, ça c'est pour toi, vu l'été que tu as eu, il te fallait un parapluie. Et il m'a dit, tu peux revenir l'année prochaine. Et voilà, et ça a démarré.
Et ça fait combien de temps maintenant?
Ça fait 9 ans.
9 ans que ça passe. Tu vois, Fred, il reprend souvent cette expression, les émotions. Les émotions, on ne les montre pas. On ne les voit pas, qu'elles soient d'un côté positif ou de négatif. Si on n'est pas heureux, on ne va pas montrer qu'on n'est pas heureux. Ça ne se montre pas. Et quand on est heureux, on ne le montre pas non plus quand on est heureux. Tout ça, ça ne se montre pas. Ça, c'est comme ça. C'est les gens de la montagne, ça ne se montre pas. Moi, je me rappelle quand j'arrivais à Sétiguin, aller retrouver Jean-Louis qui était de Sète. On partageait la cabane avec lui. Et quand on arrivait chez lui, où on descendait les brebis et on prenait ses brebis, après on attaquait la montagne. Mais quand je le voyais, alors ça va, rien, pas un mot, pas un sourire, rien, ça va, comme ça. Et ça allait, il était heureux. Mais il était heureux, cet homme. Il était vraiment heureux. Mais ça se montre pas.
Quelle est la place, on va dire, du berger aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois dans cet univers, sur cette terre, dans les Pyrénées et sur ce coin donc des Pyrénées? Quel sens vous donnez à cela, Agnès?
C'est une question, ça. En plus, moi, j'ai la place de la bergère, femme de berger même. Hein. Je suis femme, donc j'ai encore pas cette place. C'est encore particulier. Il y a le berger et la femme du berger.
Avant, ma mère, c'était pas la paysanne, c'était la femme de Jean, du paysan.
Oui, c'est la femme.
C'est la femme d'eux.
Oui.
Et alors aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des bergères.
C'est ça.
Qui ont un contrat, qui sont bergères, tu vois. Et ça, c'est nouveau, ça aussi.
Là, ici, on est en couple. C'est une autre dimension. C'est un autre regard. En plus, on est en famille même. Oui. On a les enfants depuis le début. Et moi, j'étais enceinte la première année où je suis montée. Hein.
Bonjour, Héloïse. Oui. Bon voilà, tu es avec ton petit frère, là, vous avez été avec le chien.
Moi, je m'appelle Léandre.
Tu t'appelles Léandre? Super, donc Léandre et Héloïse. Alors, maman et papa vous emmenaient ici.
Oui.
Qu'est-ce que tu as envie de raconter, toi, tes copines et tes copains, une fois que tu as passé ces bouts de vacances ici?
Ben, je leur raconte toujours pareil, alors ils me disent que ça doit être nul, aller dans la montagne. Alors du coup, moi, je leur dis, mais moi, j'aime bien. Je leur dis que je pars dans la montagne me promener, que je joue dans la montagne avec les ocres et que je vais chercher des cristaux.
Et puis tu t'occupes un peu des bêtes quand même aussi ou...
Oui. Des brebis, parfois le soir quand je vais les fermer, j'ai des brebis qui viennent chercher des caresses.
Elle avait 3 mois quand elle est montée la première année. Ouais. Donc tous les étés, elle a 8 ans. Et elle vient ici, donc elle s'est inscrite en club d'escalade même, chez nous. Mais les enfants, au bout de quelques jours, ils s'imprègnent de la ville ici. Parce qu'habiter ici, c'est différent d'y passer en randonnée. Et ça, c'est important. Et eux, ça, rapidement, ils s'y mettent. Il y a très peu de jouets, d'ailleurs, à eux, là. Ils jouent avec des cristaux, des ocres, ils font de la peinture. Là, ils élèvent, il y a un crapaud, un orvet, un lézard, différents animaux.
Ouais, c'est leur terrain de jeu. Comme dans un quartier, ils vont avoir leur terrain de basket ou autre chose, quoi. Et ici, c'est leur terrain de jeu, quoi.
Et puis, ici, ils ont les parents et la nature sauvage. Avec ça, tu peux grandir autrement, quoi. Enfin, il y a un équilibre qui est bon, là.
Bon, sur le son de ce joyeux hélicoptère offert par Ciro 2, mon amour en prime, cher Alain Ribet. Donc on va se quitter en vous souhaitant bien sûr le meilleur ici, dans ces Pyrénées qui vous sont indispensables.
Oui, mais tu vois qu'on parle du son de l'hélicoptère qui est là, mais tout ça fait partie de la vie aussi. C'est là. Tu vois, j'ai voulu vraiment que tu viennes ici, venir voir ce bout de l'Esquin, au-dessus de l'Esquin, cette nature qui est juste là, tu vois, qui ne se pose pas de questions, elle est là, elle avance tranquillement. Parce qu'elle peut faire avec le soleil, la pluie, le vent, elle est là, tranquillement. Et je pense que plus ça va, on devrait prendre exemple encore sur elle. Avant, on était avec elle. On faisait partie de la nature. On était vraiment avec elle. On vivait avec elle. Aujourd'hui, on se prend On se croit au-dessus d'elle. Revenons un petit peu en arrière. C'est pas rétrograder, ça. C'est au contraire, c'est retrouver nos racines, retrouver nos bases. Et si on consolide encore mieux nos bases, on pourra s'envoler beaucoup plus haut.
Mais c'est en train de se faire.
Tout
c'est
à fait.
Ça le côté
tout
positif.
C'est ça. Tout
Covid
à fait.
Et même avant.
Tout à fait. Tout à fait.
Ça y est.
On voit vraiment l'évolution. Moi, je vois vraiment l'évolution ici dans les montagnes. Avant, il y avait du monde qui venait. Mais là, depuis le Covid, le nombre de gens qui sont venus ici, je discutais avec Fred et le berger, il me dit le nombre de gens qui a cette année, on n'a jamais eu autant de monde. Et pourquoi? Parce qu'on revient. On revient. Et c'est bon, ça. C'est tellement positif de retrouver ça. Retrouver la beauté.
À bientôt, Alain Rivet.
Merci à toi, Denis. Merci beaucoup du fond du cœur.
Mixé par Loïc Frapsos et réalisé par Xavier Pestugia. Donc c'était un petit bout, un bol de Vallée d'Aspe avec donc Alain Laribet, un homme qui nous fait du bien. Et ces musiques qu'on a pu entendre d'ailleurs en partie aussi sous ce reportage, courent d'abord dans sa tête, entre ses mains avec ses différents instruments, et puis donc il nous les offre ensuite. Voilà, donc je pense que c'est peut-être que ça fait encore plus de bien aujourd'hui, c'est comme ça. Et avec grand plaisir aussi, nous accueillons aussi en direct Karine Marcilly. Bonjour Karine.
Bonjour Monsieur Chessou.
Allez-vous bien Karine? Oui.
Très bien, je suis en forêt dans le Perche.
Ah, alors là, on est au cœur du sujet parce que vous venez de sortir chez Harper & Collins le carnet d'une arboriste, pas d'une herboriste, même si vous aimez aussi les plantes, mais d'une arboriste, Ma vie avec les arbres. Et c'est pour ça que ça nous intéressait bien. Déjà parce qu'en fait, ce métier, on va dire que c'est un autre nom pour les lagages. On est vraiment sous le signe de la forêt hein, quand même aujourd'hui. C'était plutôt un métier de mec, donc il a quand même fallu faire sa place. Et heureusement, les femmes sont aussi dans ce domaine.
Ah mais complètement. En tant qu'arboriste, nous sommes avec un regard très maternel pour les arbres finalement et on grimpe jusqu'à la cime pour aller ôter juste les parties malades ou vraiment ce qui est très gênant, mais sans endommager l'arbre.
Et alors pour
de manière à ce qu'ils vivent longtemps.
Et j'ai découvert que pour cela, vous travaillez avec une scie japonaise que je ne connaissais pas. Enfin, ça se trouve, je la connais de vue, mais je ne connaissais pas son nom. Ça ne fait pas exactement de bruit, hein, parce qu'une tronçonneuse, c'est autour de 110 décibels. Il n'y a pas de pièces de rechange. Ça se désinfecte facilement, ce qui est très important, parce que ça évite la propagation après des maladies virales. C'est aussi une espèce d'art. Enfin, c'est un vrai choix que vous avez fait là.
Complètement. Et ça permet de ressentir exactement la texture du bois et de connaître au mieux l'essence de l'arbre sur lequel on travaille.
Et alors, vous refusez, vous aussi, d'abattre sans motif valable un arbre. Parce que vous avez parfois des propriétaires, des collectivités qui vont dire « Allez, hop, zou, du balai ». Vous, ce n'est pas le cas?
Ah non, pas du tout, non. J'essaie de préserver. En plus, je suis aussi présidente de la défense du patrimoine arboré des communes de la Manche. Et j'essaie vraiment de faire réfléchir les clients sur le but. Et quel est vraiment le sens d'abattre cet arbre? S'il n'y en a pas, j'essaie de défendre coûte que coûte l'arbre parce que ça n'a vraiment aucun intérêt d'abattre un être vivant qui a quelquefois une centaine d'années.
Alors, vous racontez dans cet ouvrage, donc je rappelle le titre, hein, Ma vie avec les arbres chez Harper & Collins, une histoire de tilleul qui se passe dans la Manche. Donc on est à Torigny-sur-Vire et donc on avait installé au début du XVIIIe siècle de très très beaux tilleuls. Et alors là, ça a été...
La famille Grimaldi qui les avait plantés.
Et donc Monaco, bien sûr, on les salue. Et alors, il y a eu affaire à une poignée, mais de merveilleux incompétents qui ont détruit des siècles d'harmonie. Il y avait aussi un grand mur hein, qui était derrière, un rempart de 300 mètres de long et de 15 mètres de haut. Et alors après, tout ceci a vraiment affecté la commune.
Ah mais complètement. Déjà, on a interdit la promenade qui était extraordinaire le long des étangs bordés par ces très vieux tilleuls, donc qui étaient séculaires. Et ce mur qui protégeait les courants d'air qui avait été aménagé après la plantation des arbres, en détruisant ces arbres, ils n'ont pas pensé que ces 300 ans de racines allaient se décomposer. Et donc le mur est actuellement en train de s'effondrer. Mmh. Et malheureusement, ils le remplacent. Ce n'est plus le magnifique mur en pierre bordé de tilleuls avec de l'autre côté des étangs, mais vous avez de gros étais en béton.
Super.
Et à la place des arbres, vous avez de pauvres jeunes arbres qui essaient de pousser, mais qui n'ont pas grand avenir, et de l'éclairage qui va les empêcher l'empêcher de se développer.
Alors moi, ce que je vous propose, Karine, c'est un jour de passer vous voir parce qu'il y a, on a beaucoup de choses.
Ah
oui, oui, on va se le faire vraiment en reportage que vous parlez aussi très très bien de la Lune, etc. Enfin, voilà, c'est un autre regard sur la manière de travailler, délaguer, parce que c'est nécessaire évidemment de délaguer des arbres, mais pas n'importe comment. Et là, c'est tout un art. Merci Karine Marcilly, carnet d'une arboriste chez Harper et Collins. Ma vie avec les arbres. Oh, je dirais que ça sent la fin, mais absolument. Merci à Grégory Wallon à la technique, à Marion Philippe, à Xavier Pestudia, donc, qui a réalisé l'émission, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. Et puis, alors, la semaine prochaine, on va s'intéresser aux animaux. Vous savez, ceux qu'on n'aime pas, moi je les aime beaucoup. Les corbeaux, les freux, les corneilles, avec un très joli délit de sale gueule derrière. Vous allez, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est passionnant. Je vais vous emmener à Savenières. Donc là, on change complètement. On va être dans le Maine-et-Loire avec l'association Life Crow. Et là, vous allez voir, c'est assez étonnant. Le podcast, vous en avez l'habitude, aussi bien La Tulu, que vous pouvez écouter aussi à 17h50, et podcast de La Tulu, podcast de CO2 Mon Amour. Que me reste-t-il à vous dire? Je n'ai plus le temps, ce n'est pas grave. Si, une excellente fin de week-end et de dimanche.